Bonjour à toutes et à tous, enchanté de vous retrouver pour ce nouveau magazine de la moto sur le 106,6 de Campus Lille ou www.campuslille.com. Au menu de cette émission aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec nos motards engagés. On commence avec Christophe qui nous donne un aperçu du sommaire du Moto Magazine d'avril, le mensuel destiné à suivre l'actu motocycliste, notamment dans le domaine de la sécurité routière et de la pratique quotidienne de la moto. Christophe, bonjour.
Bonjour Lamiche, bonjour à toutes et à tous. Et oui, avril, donc mois de... C'est le printemps, hein, on sort les motos, il y a eu les salons là au mois de mars, on va en parler. Et puis donc le 418, numéro mensuel, comme d'habitude, donc début du mois, on fait la présentation. Alors, premier sujet, l'actualité. Vous êtes allés à Paris récemment, non, les uns les autres?
Je boycotte Paris.
Ah, non, alors le périph' c'est à 50, c'est pas nouveau. Ce qui est nouveau depuis le 3 mars, c'est la voie réservée au covoiturage. Vous savez, cette voie qu'on avait mise en place pour les Jeux Olympiques.
Oui, mais comme ici à Lille, alors aussi, entre Seclin et puis, je ne sais plus, il y a Beaumont, c'est ça?
Oui. Ah oui, je suis jamais... Vous y êtes passé, ça?
Oui, régulièrement, monsieur. Nous, on circule.
Et alors?
La signalisation est très mal foutue, on n'y comprend rien.
Tu ne comprends rien, c'est limité à 110, et à un moment donné, tu es à 130, tu repasses à 110 avec un radar sur le côté gauche.
Donc j'essaierai de vous faire la voie de covoiturage pour les nuls tout à l'heure, donc c'est le sujet d'actu. Alors on parle aussi des zones à faible émission, zones à trafic limité, mais ça je le laisse pour Jean-Yves, c'est un peu la spécialité de la FFMC, donc à toi l'honneur.
Voilà. Merci beaucoup.
Autre sujet, donc là j'ai voulu faire un peu un pas de côté, le courrier des lecteurs très fourni ce mois-ci, de coups de gueule on peut dire, c'est presque une page complète de deux lecteurs. Et une question, pourquoi tant de GS? Alors, je m'étais posé la question quand on était allé en Grèce et puis que j'y suis retourné faire un peu de tourisme. Là, j'ai un peu prolongé. Sur la moitié des motos qui montaient dans le bateau, c'était c'était des GS. Pourquoi tant de GS? Alors, ça tombe bien. J'ai un copain qui roule... on allait au Touquet il y a quelques dizaines d'années ensemble. Pas en GS, mais il vient d'en acheter une. Et donc, j'ai trouvé intéressant. Alors, Patrick, bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Tu roules GS depuis...
Depuis deux ans.
Deux ans. Faut dire que tu es retraité.
Oui, depuis deux ans.
Voilà. Et voilà, il a attendu la retraite.
Christophe, il a quand même précisé qu'il a attendu la retraite pour acheter la GS.
Il nous expliquera ça tout à l'heure dans le sujet de la séquence, après avoir eu bien d'autres motos. Tu es assez fidèle. Il y en a une que je connaissais que tu as gardée longtemps, la GSX-EF.
Ma XC600, je l'ai toujours, elle est dans mon garage. Ma 125 DTF de mes 16 ans est toujours dans mon garage aussi. Mais bon, j'en ai laissé partir quelques-unes.
Ok, d'accord. On évoquera ça tout à l'heure avec toi. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, je reviens sur les salons. Donc le salon de Douai qui vient de se terminer, mais j'en ai déjà parlé le mois dernier. Et surtout le salon de Lyon. Et donc un long article de Philippe Guillaume qui revient sur toutes les animations et ce qu'on a pu voir sur ce salon, qui est le premier salon national et le deuxième après Milan, mais qui intervient sur un autre domaine. Et je vous l'évoquerai tout à l'heure.
Voilà, très bien Christophe. L'autre motard engagé, c'est Jean-Yves Ballois, le porte-parole de la Fédération française des motards en colère des Hauts-de-France. Jean-Yves, bonjour.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Moi, je vais vous parler d'une belle exclusion sociale et du hashtag Légueux, organisé par Alexandre Jardin, qui est un écrivain bien connu, qui en général est plutôt à l'eau de rose. Il parle plutôt d'amour et de choses qui vont bien. Là, il met le poing sur la table et c'est un mouvement qui se développe, mais plus vite que les champignons.
Ok. Tu vas nous parler aussi de l'opération Nid de Poule, parce que c'est bientôt Pâques.
C'est Pâques et donc, comme tous les ans, c'est l'opération Nid de Poule. Je ferai aussi un petit bilan rapide des activités de la FFMC 59 sur le département, parce que le problème de communication, justement, c'est que les motards disent « Ah, la FFMC fait jamais rien ». Et là, justement, j'ai de quoi leur répliquer alors critique.
Voilà, les chiffres du contrôle technique aussi. Oui. Le boycott, en fait.
Les chiffres du boycott, c'est justement, je vais vous prouver que c'est très intéressant de continuer, parce que j'ai même une citation de Palmier, qui est le directeur général de Securitest, qui trouve que ça commence à bien faire, ça lui coûte du pognon et il envisage d'arrêter.
Voilà, la reprise du guidon qui aura lieu le 10 mai.
Le 10 mai, mais ça j'en parlerai peut-être plus longuement l'émission.
Et puis pour terminer, le stage à FDM.
Voilà, justement.
26 et 27 avril. Ça, je sais que tu y tiens.
Le week-end dernier, on a fait un stage et manque de chance, on n'avait que 4 stagiaires et il y avait 10 animateurs. Donc là, les les stagiaires en ont eu pour leur argent parce qu'il y avait des conseils vraiment pertinents qu'ils ne connaissaient pas.
Très bien, Jean-Yves. On termine avec notre dernier motard engagé. Ben, c'est Daniel Torel, intoxiqué à la Cusum Culture. Bonjour, Daniel.
Salut, la miche. Salut, les gueux.
Alors, la Cusum Culture, c'est surtout les marques custom, hein, principales marques américaines.
Hein, tout à fait.
Qui vont pas très bien.
Disons que le marché est un peu vieillissant. Et comme il y a de plus en plus de gueux qui roulent en vélo électrique, c'est sûr que les marques américaines, c'est pas génial.
Voilà, donc tu vas nous parler d'une mort annoncée, c'est ça, hein? Non, c'est ça,
ouais,
la chute d'un géant, hein, c'est ça.
Oui, chronique de la chute d'un géant. Ouais, ouais. Tout à ouais. fait, et c'est ce qui est extrêmement inquiétant.
Très bien, merci Daniel. Voilà, vous écoutez Campus Lille sur le 106,6 ou www.campuslille.com. Cette émission vous est proposée par l'association des motards de Kikinkout et Toupal, et on se retrouve dans quelques instants, juste après notre premier morceau de musique. À tout de suite. C'est le magazine de la moto, c'est sur Campus Lille, 106,6. Christophe, tu nous proposes un aperçu du sommaire du motomagazine d'avril et tout parler de l'actu parisienne, en fait.
Oui, oui. Alors, effectivement, je disais, elle évolue. Alors, j'ai appris un gros mot, autosolisme.
Ah oui, j'ai vu ça aussi, oui.
Vous connaissez ça, oui. Voilà, ça vient de sortir.
Connerie et bobo écolo, ça.
Voilà. Alors, à Paris, je rappelle que depuis quelques mois déjà, on roule à 50 sur le périphérique, qu'il y a eu les Jeux Olympiques... donc, et ces voies réservées dont on savait qu'elles auraient une pérennité, bah, ça y est, c'est tombé depuis le 3 mars à Paris, sur le périphérique, alors partiellement, mais en gros, c'est presque tout le périphérique, et sur deux tronçons, sur la 1 et sur la 13, vous avez des voies réservées à certaines heures. Hein, donc ça, il y a un catalogue des heures, déjà, il faut s'y retrouver. Et donc, vous ne pouvez pas les emprunter si vous n'êtes pas deux dans une voiture ou deux sur une moto. Hein, voilà. Alors, cherchez
déjà,
le paradoxe.
Il y a un coefficient de remplissage
qui a été fixé à 40% pour les voitures et pour les motos. Sauf que, justement, non, pour les motos, pilote sur une moto, hein, jusqu'à preuve du contraire, c'est 50% du taux d'occupation de la moto. Donc, débrouillez-vous avec ça. Alors, problème, c'est effectivement pour les motards la difficulté aujourd'hui à s'insérer dans la circulation avec une voie de covoiturage où ça risque de rouler vite.
Beaucoup plus vite.
Et puis, l'interfil. Alors là, Jean-Yves, est-ce qu'on peut encore parler d'interfil ?
Si, parce que souvent à Paris, c'est complètement bloqué. Donc, quand les bagnoles sont à zéro, on peut rouler à 20-30 entre les deux files.
Oui, mais là, justement...
Si elle roule à 50, effectivement, on ne peut plus faire d'interfil.
Voilà. Et donc, le problème, ça risque d'être sur une trois voies, les deux premières qui sont à l'arrêt, et puis celle qui est en covoiturage, plus circulante.
Revenir un petit peu, Christophe, sur le contrôle, parce qu'il y aura des contrôles d'ici quelques mois, là. Contrôle automatique.
C'est effectivement, pour l'instant, à visée pédagogique. On connaît la musique. Donc, il y a des clauses de revoyure. Je crois qu'il y a trois dates qui sont avancées jusqu'au milieu de l'année prochaine pour justement débriefer par rapport à la situation et l'évolution. Parce que le risque, c'est quand même la thrombose. Alors, je lisais justement les fruits d'une étude. 80% des utilisateurs du boulevard périphérique viennent de la banlieue. Il y a plus de la moitié qui sont de la petite couronne et le reste, donc, de la grande couronne. Et le taux d'usage sur le périphérique est de 83% avec une seule personne. C'est effectivement énorme. Mais c'est le problème des déplacements de banlieue à banlieue,
Et alors, ce sera confirmé, en fait. Il va y avoir le respect et contrôlé par des cabines de radar automatique qui identifient le nombre de passagers par infrarouge et caméra thermique.
Oui. Donc, la poupée gonflable, marche pas.
Voilà. Sauf à mettre de l'eau chaude.
Motomag propose de mettre de l'eau chaude dans la poupée gonflable. Ouais. De manière à ce que la caméra thermique, c'est un être humain, effectivement, donc il n'y a pas de souci.
C'est complexe, parce que pour tenir l'eau chaude, il faut une pompe à chaleur, parce que si on a un véhicule électrique, ça va coûter cher, vider la batterie.
Si tu as encore un allume-cigare dans ta bagnole, c'est pour les aimer comme bagnole.
Mais c'est pas encore le pire.
En moto, c'est pas la peine, de toute façon.
La poupée gonflable, il faut qu'elle soit bien lestée, alors.
Mais c'est pas encore le pire. Le pire, c'est qu'Hidalgo veut transformer 500 km de rue parisienne en végétalisée.
Ah oui.
Donc interdite strictement à la circulation.
C'est Tarzan qui va être content.
Tout à l'heure, hors micro, tu nous disais l'arrivée dans l'île depuis qu'ils ont installé autour des gares, là, justement, les voies cyclables. Sincèrement, n'y allez plus. Même en moto, c'est complexe.
Ah oui, ça, je peux te l'assurer. Ouais,
ouais. Si on parle de l'actu parisienne, parce qu'en fait, tout ce qui se passe à Paris, tout ce qui est décidé, généralement, ça arrive en province quelques mois plus tard.
Hein. Alors, tu crois pas si bien dire, justement, petite histoire des voies réservées. Et donc, d'où ça vient ? Eh bien, déjà en 1969, il y avait des voies réservées, donc aux États-Unis, en Virginie du Nord, des voies réservées au transport en commun sur une autoroute. C'était entre Washington et Beltway. Et ensuite, le Canada a installé ça il y a 35 ans, l'Espagne, il y a 30 ans, et en France. Les premiers à avoir fait des voies de covoiturage, c'est à Grenoble, et c'était il y a 5 ans. Et depuis, même à Lille, il y a des secteurs que j'emprunte pas souvent, mais effectivement, sur l'autoroute 1, c'est aujourd'hui à titre expérimental. Et donc, maintenant, Paris, mais Lyon, Strasbourg, Rennes et Nantes sont déjà dotés des voies de covoiturage. Donc, je pense que ça est parti pour un long mouvement.
Voilà. Donc, la suite si générale.
Et si j'ai jamais. Alors à Paris, on peut pas prendre un motard ne peut pas utiliser cette voie, hein, à moins d'être deux voilà, sur la moto.
C'est ce que voilà. On évoquait tout à l'heure.
Mais en France, c'est pas généralisé. Il y a des villes où on peut utiliser les motards peuvent utiliser la voie de covoiturage.
Ouais, tout à fait.
Ça.
Et comment on va le savoir ça, Christophe? Il va falloir rendre partie.
Les portiques de signalisation. Oui. Alors on parlera tout à l'heure avec Jean-Yves des ZFE et puis aujourd'hui, vous avez entendu tout ce qui se discute actuellement au Parlement sur le sujet. Hein, on y va, on n'y va pas. Ou on retrait ou on retrait pas. Hein, donc là, effectivement, sur les voies de covoiturage, elles seront signalées sur les portiques. Quant à la spécificité des véhicules qui l'empruntent, oui, ça, j'avoue que je ne sais pas trop comment ça sera porté.
Ça sera l'objet d'une discussion entre usagers et puis autorités... métropolienne.
Ces gens-là pourraient nous dire clairement, c'est interdit de rentrer avec votre véhicule thermique, votre voiture ou moto, dans la ville, parce que ça s'apparente à ça en fait.
C'est déjà le cas des voitures à Lille, c'est
un manque de liberté. C'est clair.
Dans l'article, on cite Pierre Chasseret, donc qui est délégué général de 40 millions d'automobilistes, hein, une association assez pesante qui intervient. Beaucoup en termes de communication, et je doute pas que sur ce sujet-là,
il y a une grande campagne actuelle de signatures.
Ils seront très très présents.
Et l'autre aussi, la défense des automobilistes, ils font aussi des campagnes de pétition parce qu'actuellement, au Parlement, il y a une soixantaine de députés qui ont fait une proposition de loi pour supprimer les ZFE. Il faut que ça passe au Sénat, il faut que ce soit supporté par la population. Et donc, si vous avez l'occasion de signer ces pétitions, faites-le surtout et dès demain.
Il faudra que la France se défende auprès de l'Europe parce qu'il y a effectivement une amende qui pèse
dans les 3 milliards
d'euros, effectivement, par rapport...
La France a modifié profondément son obtention de permis de conduire. Et donc, on a eu, au départ, il parlait de dérogation au contrôle technique à condition d'améliorer la sécurité des motards.
Voilà, donc vous trouverez le sujet premières pages de Motomag, rubrique Actu, et vous avez tout le détail concernant en plus les horaires, qui sont en fait les horaires de navette le matin.
Je vous propose de passer un morceau de musique et après on parle pourquoi tant de GS. Pourquoi voit-on tant de GS sur la route?
Ça tease bizarre question. Quand même.
Voilà, à tout de suite.
Sun grind down. When it rains so hard. Poor old Captain Brown. Ghost of Mr. Johnson. Thing like cuts into the tree. So I cross the road, that's the strain. This is where we be. Just a white hot firecracker in a sleepy southern town. Northern chili peppercorn lay his burden down. Another firecracker walked the hallowed ground. Red hot chili pepper he'd gone lay his burden down. Firecracker! Firecracker! Well now, hey, firecracker, you quit your fooling around. Ain't you just a firecracker, white lightning in your hand, stirring up that muddy water, just a raising so much sand. Son, I ain't the devil, not the seventh son. Don't know what it is you're looking for, but I know what's done is done. Yeah, I know what's done is done. I ain't got no chicken foot, no fat ass bojo bone. Bet you take that northbound train, leave us here alone. Firecracker. Firecracker. Firecracker.
Le magazine de la moto, c'est tous les dimanches, c'est sur Campus 106,6. Aujourd'hui, Christophe, tu nous proposes un sommaire du Motomag d'avril et on parle de GS. Hein. GS, alors, oui. c'est pas la voiture, hein, c'est la BMW.
Oui, tout à fait. Alors,
la moto.
Pour une fois, je parle du courrier des lecteurs. Tous les mois, normalement, hein, tous les mois, il y a effectivement des lecteurs qui s'expriment. Là, il y a deux pages presque complètes de courrier des lecteurs. Et j'ai été interpellé par celle de Yves qui dit avoir passé le permis à l'âge de 69 ans. Et qui s'étonne, où est la FFMC ? Alors en fait, il se plaint un peu de Motomag par rapport justement à la couverture de la FFMC.
Oui, il a même décidé, je crois, de ne pas renouveler son abonnement.
Mais il va peut-être changer d'avis à la lecture de la réponse de Pierre Orluc, le rédacteur en chef. Mais bon, peu importe. Et donc, il évoque l'hégémonie des GS. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas, et s'il en existe encore, il s'agit du trail, du maxi-trail de BMW. Alors, pour planter un peu le décor, vous savez que il y a deux ans, est sortie la 1300 GS, qui rompait beaucoup avec la 1250, le modèle précédent, qui est plus routière. Et donc, j'ai regardé les chiffres. Et c'est impressionnant. Pas moins de 8000 GS ont été immatriculés en France en 2024. Donc, évidemment, la 1300 GS, elle fait plus de 50% des ventes. Mais, quand vous rajoutez l'Adventure, c'est encore 1000 de plus. Mais il s'est encore vendu plus de 2250 GS et GS Adventure. Et donc, j'ai trouvé intéressant de donner la parole à un propriétaire pour qu'il nous explique aujourd'hui. Donc, j'ai invité Patrick. Patrick, tu as fait ton acquisition, tu nous disais tout à l'heure, il y a 2 ans.
Oui, voilà.
Mais tu n'as jamais roulé GS depuis des lustres. Parce qu'on a pratiqué la moto ensemble il y a une trentaine d'années. Quel est ton parcours motard ? Quelles ont été tes machines ?
J'ai commencé avec une 125 à 16 ans. À 26, j'ai passé le permis et puis je me suis acheté une XT600 et mon épouse une 400 XS d'occasion. On a roulé avec ça un moment. Après, on a acheté une 750 GSXF qu'on a gardée 30 ans.
Et voilà, ouais. C'est celle que je connaissais. Tu ne l'as plus ?
Je ne l'ai plus. J'ai fait reprendre pour les GS. Et puis, quand j'ai eu 49 ans, je me suis payé une 929 Fireblade d'occasion. Une super machine, franchement, que j'y pense encore aujourd'hui, mais je ne pouvais pas tout garder. C'est pareil, j'ai fait reprendre aussi pour la GS. Parce que c'est un coût aussi en entretien et puis en assurance, en tout. Quoi.
D'accord.
Et puis après, les avoir et pas s'en servir, c'est dommage aussi.
Donc, tu as fait reprendre 2 motos
oui.
pour en acheter une.
Oui, mais j'ai gardé ma XC600.
Ah oui, non, ça c'est fort. En général, on fait reprendre une moto. Là, pas mal. Je ne sais pas si c'est très cool.
Ouais, c'était pas des bonnes reprises. Il y a une machine, ça ne vaut pas grand-chose en fait.
Oui.
Ma Flyerblade, elle avait 20 ans. Et puis ma GSXF30, donc forcément, ça ne valait pas grand-chose. Même si elles étaient encore en bel état, mais bon.
Ok. Et alors, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à cette moto-là particulièrement ?
Eh bien, avec 2 autres copains, on avait décidé... au moment de la retraite, de voyager un peu. Et il se trouve que nos épouses nous laissent rouler, on a de la chance. Et puis parfois la mienne, elle m'accompagne, mais comme elle est encore en activité, elle ne peut pas toujours. Malheureusement, il y en a un qui a été emporté par la maladie il y a quelques années. Tu le connais, hein, Julou. Oui. Et puis, donc, avec Vincent, on s'est dit, au moment de la retraite, ton cousin, Vincent, on va rouler un peu et puis profiter des belles années qu'on a encore, quoi. Et donc, voilà. En 2019, on a loué donc des machines. On est allé faire un week-end à Troyes, enfin, avec nos épouses. Sur Marseille, on a loué des GS qui venaient de sortir, en fait, la 1250 qui venait de sortir. 4 jours, on les a eus. Et on est tombé sous le charme, voilà. Et donc, j'ai cogité ça encore pendant quelques années dans ma tête. Et puis, au moment de la retraite, voilà, j'en ai acheté une d'occasion, ouais. Bien équipée. Et puis, donc, ça a permis de descendre un peu le prix, malgré que ça reste encore une machine cotée, hein. Elle avait qu'un an, donc forcément, voilà. Et puis depuis, dès qu'on peut, on voyage, en fait. Alors,
hein. Ça, je peux vous dire, hein, on ne roule pas ensemble, mais effectivement, j'ai Vincent, avec qui tu roules, que je connais très bien, qui me raconte vos projets. Alors, déjà, ce que vous faites, hein, parce qu'il faut que tu nous racontes, vous partez faire la grande traversée des Alpes, mais pas que. C'est-à-dire que la traversée des Alpes, elle était à rallonge.
Ah oui, après, ouais, donc on emmène les tentes avec nous, on essaie de, tant qu'on peut... On va essayer de dormir un peu sous la tente. Et puis, bon, de temps en temps, on va à l'hôtel aussi pour faire une bonne nuit quand même. Et bon. Voilà. Et donc, on a traversé les Alpes par la route Napoléon. Et puis après, on a pris le bateau pour la Corse. Et là, on a fait le tour de Corse. On a retrouvé deux amis qui étaient descendus avec une voiture et un plateau. Et puis, ils ont descendu leur vieille machine, une CX500 de plus de 40 ans. Et puis une Honda aussi, VF1000. Voilà, c'était sympa. On a roulé comme ça à quatre. Voilà, ça, c'était il y a 2 ans.
Bon, alors, oui, eux, ils ne roulent pas GS. Enfin, il y en a un qui roule BMW, ou peut-être deux même. Et toi bon, qu'est-ce que tu lui trouves à cette moto?
Elle correspond à ce que j'attendais. Elle est à ma taille, parce que je suis assez grand. Hein, je suis 1m92. Ouais. C'est la première fois que j'ai cette sensation-là au guidon de sérénité, de confort, parce que franchement, freinage au top. Hein, comme beaucoup de machines aujourd'hui. C'est pas ce qui justifie le prix, mais comme beaucoup de machines aujourd'hui. Dès les premiers mètres faits, on ne sent plus du tout le poids. Et puis, on sait enquiller les kilomètres... Bon, on ne fait pas de l'autoroute tout le temps. Ça nous est arrivé une fois avec Vincent. On a démarré tout le long le matin. On a rentré le soir chez nous dans les WEP. Des douleurs nulle part. Quoi. Ça, ouais. Ça, j'avais jamais eu. Sur mes sportives, c'était pas le cas. Au bout de quelques heures.
Vous avez, enfin, tu as une utilisation exclusivement routière parce que les gens avec qui tu roules.
Non, j'ai pas les moyens d'aller faire de l'enduro avec ça. Ça, c'est clair. En roulant pas trop vite, tu sens le poids quand même. Quoi. Donc, il faut vraiment être un bon pilote, je crois, pour aller faire du off-road avec ça. Ou alors, il faut avoir la formation. Hein. Il existe des formations. Pour l'instant, c'est pas notre projet avec Vincent.
D'accord.
Et puis, on rajeunit pas non plus. Donc, voilà. On se protège.
Oui, on avait eu l'occasion d'avoir Jean-Luc Cotterelle, hein, qui avait traversé l'Afrique et même plus loin avec sa 1150 GS. Donc, là, ça fait un peu ancêtre. Et c'est vrai que c'est des machines lourdes, il faut reconnaître.
Oui, quand même. Ouais.
Sur
la route, par contre, on ne le sent pas du tout.
Oui, tu t'es jamais intéressé à ses concurrents. Je pense à la Guzzi, à la Stelvio, parce que restons comparables avec des Cardan, il n'y en a pas deux. Enfin, si, il y a la Stelvio.
Oui, et puis il y a la 1200.
Si, la Tiger.
Effectivement. Donc il y en a Cardan aussi.
Il y en a trois.
Je suis issu d'une famille de motards et mon frère avait une BM que Vincent a rachetée d'ailleurs. Et j'avais vu la fiabilité et puis tout le bien que mon frère en pensait. Donc voilà. J'avais été attiré par ça, puis je te dis, c'était le moment où je l'ai loué là-bas à Marseille. J'ai été séduit quoi, par la machine. J'avais trouvé la compagne pour la route.
et le fait qu'on voit que ça sur la route, c'est la question posée par le lecteur.
C'est vrai qu'on voit que ça. Dans les virages en Corse, on croisait tout le temps des GS. Il y en avait plein sur le bateau pour la traversée. Il y en avait plein.
Oui.
On a fait notre périple avec Vincent. On est allé dans les Vosges, on est allé au Mans, on est allé en Bretagne. On en voit tout le temps, quoi, c'est vrai.
Voilà. Et là, vous préparez la Grèce, mais c'est pareil. Enfin, nous, on y était l'année dernière. Vous, la Grèce, c'est plus que la Grèce. C'est l'Europe du Sud.
Ouais, enfin, on n'est pas encore parti.
Oui, on prépare.
Ouais,
mais ça cogite.
Il y a le temps aussi qui fait qu'on ne peut pas toujours reporter le projet parce que Vincent est un petit peu plus vieux que moi. Et puis, moi, c'est pareil, je suis plus tout jeune. Donc, voilà.
Ah oui, il faut se dépêcher. Hein.
Oui. On est vite emporté.
On l'a vu
avec notre ami. Quoi,
Bon, elle était partie pour la garder. Tu ne vas pas consommer de la moto dans le sens.
Non. Et puis, donc, je fais aussi de la moto avec mes fils. J'ai mes fils qui ont des 125 et puis j'en ai un autre qui a le permis gros cylindré qui n'a pas de moto. Donc, je lui file ma GS et je roule avec ma XT. Je sens plus en sécurité avec ma GS qui freine super bien, qui est super bien équilibrée que la XT.
La XT, c'est pas...
Ça freine pas terrible.
C'est clair que...
Mais c'est rigolo vélo, quoi, démarrage au kick et tout ça.
Ça
retourne en arrière.
Ça, c'est pour le folklore, oui, c'est bien.
C'était une autre époque.
Voilà.
Bien, bah écoute, merci Patrick de nous avoir partagé ton usage.
Je suis porteur d'aucun étendard, comme je vous disais tout à l'heure. Je suis persuadé qu'il y a d'excellentes machines dans d'autres marques.
C'était pas le but, mais c'est vrai que c'était intéressant de te faire réagir, parce que quand on va dans les concessions, effectivement, c'est une machine emblématique. Et ce qui est incroyable, c'est que BMW, tout en cassant l'idée de la 1250 GS, il y a eu un comparatif il y a quelques mois. D'ailleurs, on appelle la 1300 GS Adventure le rhinocéros. On a l'impression que c'est un peu le Range Rover de la moto, tellement la 1250 à côté fait un peu ringaler.
Ouais.
C'est assez étonnant. Très bien.
L'avantage, Christophe, c'est que maintenant, on sait pourquoi on voit autant de GS sur la route, hein, avec les propos de Patrick.
Bah, oui.
Voilà. Moi, je me souviens, quand j'ai fait le Cap Nord, sur tout le long de la route, tu soulevais un caillou, il y a un motard allemand en GS qui en sortait. Donc, déjà en 2018.
Et pour terminer, quand même, je reviens un petit peu sur l'article hein, de Motomag, hein, le courrier des lecteurs. Hein. Quand même, ce qui s'appelle Yves Didier. Et il dit, je m'interroge quelle peut être la part des lecteurs de Motomag possédant des machines à plus de 20 000 euros. Donc c'est quand même, c'est très cher.
C'est
même,
très cher,
hein.
c'est vrai.
Et il a peut-être raison, hein, effectivement, parce que qui peut s'acheter ça voilà, il dit pas forcément des jeunes.
Non, non, mais c'est
donc,
vrai.
C'est, donc t'as raison, il faut attendre la retraite.
Voilà.
Comme toi.
Voilà. Non, mais il y a effectivement des clients qui ont les moyens. Et puis, c'est quand même une moto qui garde une cote. Moi, j'ai regardé quand même, hein, parce qu'à un moment donné, je vais bien penser à remplacer la mienne. Et donc, j'ai regardé effectivement dans les plus anciennes, hein, plus de 10 ans, on reste quand même sur des cotes à plus de 10 000 euros. Donc...
Bah, écoute, il me semble que c'est ton anniversaire aujourd'hui.
Oui.
Bah, écoute, voilà, faut
en profiter. Oui. Merci de me le rappeler.
Après,
il y a des priorités.
T'es plus,
hein.
t'es plus non plus un perdreau de l'année. Hein,
oh bah merci.
Donc il faut te dépêcher et en profiter. Voilà.
Bon, on va rendre l'antenne, hein, s'il vous plaît.
Allez, donc, et on va, alors, oui, et puis après, on part à Lyon, hein, c'est ça,
c'est
Christophe
ça, hein,
bah, en présent le studio, hein, mais on parlera du salon de Lyon.
On va manger du Lyon.
Voilà, à tout de suite. I'm high. Christophe, nous allons manger du lion. C'est dans le sommaire du magazine d'avril.
Oui, alors le mois dernier, donc, bah, nous étions à Douai, deuxième salon de Douai. Nous y avons rencontré d'ailleurs Ducati Club de France qui venait du salon de Lyon. Il y avait d'autres prestataires qui étaient également présents, qui avaient entendu parler du salon de Douai. Et donc le salon de Lyon, bah, nous avions un représentant, Guy Pilarczyk, que vous connaissez bien à l'antenne. Il est allé. Il a été dépassé par la taille du salon. Hein. Les six halls d'exposition étaient occupés par le salon. Il parle de deux jours. Sincèrement, vu tout ce qu'il y avait à voir, les expositions, on pouvait y passer plus que les deux jours. Hein. Donc, l'importance de ce salon aujourd'hui, elle est caractérisée par la présence de tous les constructeurs et des importateurs. Donc, s'ils sont là, c'est qu'ils ont quelque chose à y trouver. Et donc, il l'explique d'ailleurs dans l'article, c'est qu'ils ont besoin, en fait, d'avoir les remontées d'usagers. Hein. Un peu comme Patrick, là, qui nous parle de l'AGS. Et donc, c'est intéressant donc, de passer un peu en revue tout ce qui était à voir. Alors déjà, c'est un peu comme un grand magasin de jouets. Vous arrivez, il y a une grande roue, et c'est QJ Motors qui exposait en fait ses modèles sur une grande roue à l'entrée du salon. Donc, assez impressionnant. Présentation également d'une moto électrique. Alors, vous me direz, ça n'est pas très original. Hein.
Oui, mais... Non, il n'y a rien d'original là-dedans.
Non, mais une moto électrique à boîte. À boîte et une moto de trial et d'enduro.
Alors, on a notre spécialiste Jean-Yves, qu'est-ce que tu en penses d'une moto électrique à boîte?
Le problème, c'est que dans ta boîte, tu as forcément des pertes mécaniques.
Voilà.
Et un moteur électrique, comme à zéro tour minute, ça a déjà quasiment le couple maximum, j'imagine mal l'utilité. Mais bon, il y en a peut-être une, hein, j'en sais rien.
Bon, on ira au Salon de Lyon l'année prochaine parce que c'est une de ses caractéristiques, c'est que vous pouvez essayer les motos. Et donc, à côté de ça, hein, je ne fais que reprendre en fait les pots de la personne qui écrit l'article. Honda, donc, qui avait tous ses modèles à laisser et qui organisait donc des sorties. Alors, il fallait s'inscrire, évidemment, et 40 minutes de balade au guidon de Honda. Donc, c'était le Honda Dreams Tour qui a permis donc d'essayer les motos. Alors, il y avait bien sûr d'autres marques, hein, Kov, Suzuki, Mach, Reju, puis des marques moins connues. Plus de 100 motos étaient ainsi à laisser et bien sûr, les équipementiers. Alors, coup de projecteur également sur une marque française qui est Inemotion, qui fabrique donc des airbags et qui a été retenue par Furigan et par Honda, donc respect, pour équiper leur blouson dans le cadre du développement de la sécurité et du zéro accident à moto. Enfin, zéro accident, ça n'empêche pas d'avoir des accidents, mais c'est
le moins de traumatisme possible.
Voilà, tout à fait. Alors, si on continue, je vous disais tout à l'heure, ce sont les expositions qui ont marqué quand même cet événement qui s'est déroulé début mars. Et donc, il y avait les 40 ans, on parlait tout à l'heure de la 750 GSX-F de Patrick. Là, il s'agit de la GSX-XR avec la saga depuis 1985, la première 750. D'ailleurs, Patrick, tu t'étais intéressé à la R, non?
Oui.
T'as acheté la F?
Mais... C'est une question de prix.
Okay.
Bon. Mais sinon, la R a été beaucoup mieux, c'est vrai, avec un châssis en alu et un freinage beaucoup mieux.
Ce n'était ni plus ni moins qu'une moto de course dotée de clignotants. Dixit, le rédacteur. Et puis après, les 1100, alors là, au milieu des années 90, et donc les machines actuelles, tout était présenté, une quarantaine de motos ainsi présentées. Et puis aussi une collection de combinaisons assez impressionnante.
J'allais en parler justement. Hein,
donc,
alors la photo est faite dans Motomag, on a l'impression qu'on a une centaine de combines et une profondeur dans la photo.
Oui, tout à fait. Hein, donc, des expositions, il y avait celle-là, il y avait aussi les motos d'usine. Du champion du monde d'endurance, des MV de course, des Suzuki, donc on en parlait, des Suzuki Cross, et puis des fans de motos anciennes. Et alors ça justement, il y avait le Touquet, et donc il y avait les Sax Snowder. Alors elles ne sont pas citées, hein, mais elles étaient aux côtés des Dollar, des Gnomeron, des Zundapp, hein, voilà, toute une collection, il y avait à voir. D'ailleurs, le directeur marketing et compétition de Yamaha Motorrance disait de ce salon, il réunit 95% du milieu milieu moto en France. Donc c'est dire, alors toutes les concessions évidemment.
Et c'est ça qui est original dans le Salon de Lyon, c'est qu'effectivement toutes les pratiquement, alors comme dit, 95% des disciplines de la moto sont réunies. Hein.
Voilà. Et donc ce que je disais tout à l'heure, pour les constructeurs, c'est une façon de ressentir en fait le terrain avec les propos des usagers. Ils vont à la rencontre des usagers. Honda d'ailleurs profite de l'occasion pour lancer un modèle. C'est un 350, un mono 4 temps, un T1 chevaux, mais c'est aussi les 50 ans de la Goldwyn. Donc il y a le salon juste avant 2000 ans, j'en parlais tout à l'heure, mais ils attendent aussi du Salon de Lyon cette vitrine pour présenter leur nouvelle machine. Alors ce retour client, bah, pour eux c'est important, hein, ça permet de préparer le futur. Pour certaines, je pense que c'est dans cet article-là, on parle de Ducati et du design. Donc une moto, ça se prépare 5 ans à l'avance. Et donc ils discutaient justement avec une ingénieure qui travaille avec le service design de Ducati en disant aujourd'hui on prépare les motos de 2030. Oui. Hein. Donc vraiment, alors Ducati qui sort également ses modèles. D'ailleurs il y en a un qui est présenté, hein, la Panigale V2 dans le magazine d'avril. Et donc là ils ont dévoilé la Diavel V4 découverte sur ce salon. Alors je parlais de Triumph tout à l'heure qui a cartonné en 2024 au niveau mondial et en France qui n'a pas démérité non plus, qui a profité aussi de sortir son nouveau modèle, la Tiger Sport 800, qui est également présentée donc dans le... Alors elle va chercher la MT-09 de Yamaha et donc elle est présentée ce mois-ci également dans le magazine. Les boîtes à transmission automatisées ?
Non, ça n'existe pas. C'est de la connerie
Jean-Yves,
en bâton.
Et pour le non-dit, Yamaha a profité effectivement de ce rendez-vous pour présenter aux usagers son modèle, hein, l'évolution de... C'est une évolution quand même, parce que visiblement, tous les constructeurs s'y mettent.
Hein. Oui, mais encore une fois, ce que l'on constate les dernières années, c'est une diminution de la cylindrée et une simplification des moteurs. Et donc, rajouter des robots dans les boîtes de vitesse, ça ne va pas dans le sens de l'histoire. Ouais. Hein, c'est uniquement pour les motards qui ne connaissent rien et qui se laissent prendre par des arguments technico-commerciaux.
Ouais. Alors, tout à l'heure, je citais... Le directeur marketing de Yamaha, il disait ça nous permet d'aller à la rencontre du mec qui veut acheter un NMAX, donc un Yamaha, un scooter, à celui qui veut acheter une GYTR à 30 000 balles. Et pour l'équipe Yamaha, c'est aller au contact des utilisateurs. Il dit c'est une sorte de tube d'Arissa concentré de jus de client. Je trouve l'image. Ils vendent quand même.
Comme quoi, c'est vraiment de l'objet de consommation, quoi.
Oui, non, mais ils vendent sur le Salon de Lyon, Yamaha vend entre 80 et 120 machine. Alors, c'est quand même énorme sur 4 jours. Hein. Par rapport aux 35 000 motos, ça ne pèse pas grand-chose. Mais sur 4 jours, c'est quand même... alors, 35 000 motos par an, hein, j'entends. C'est quand même un très, très bon résultat. Que dire encore ? Est-ce que vous irez l'année prochaine au Salon de Lyon ?
Bien sûr, on va y aller.
Bien sûr.
Non.
Tant qu'on est vivant, on va y aller. Hein. Voilà.
Bon, ça se télescope. C'est la reprise. Il y a quand même beaucoup de choses qui se passent à ce moment-là. Il y a Bruce Superior qui était là vraiment aussi pour présenter ses V-twins fabriquées à Toulouse. 500 motos vendues depuis 2019 à plus de 70 000 euros. Donc on se posait la question des GS à 20 000. Enfin maintenant c'est plutôt 30 000 d'ailleurs que 20 000. Voilà. Et puis aussi la montée en puissance de la CIMA, hein, la société d'importation de motos et d'accessoires, qui faisait de la moto chinoise à bas coût dans les 125, qui a monté en gamme et qui aujourd'hui est distributeur de Royal Enfield, CF Motors, QJ Motors, pas CF Moto, QJ Motors. Donc 161 000 visiteurs sont venus. Et donc, passer le cap des 150 000 déjà, qui avait été un très bon cru en 2024. Donc voilà, tout ça pour la maudite somme de 30 euros pour 2 jours.
C'est terminé pour le Motomag.
Alors, la prochaine édition, et je terminerai par là, la prochaine édition, c'est du 26 février au 1er mars.
Oui,
donc,
oui.
Le dernier week-end
pour l'année prochaine, en 2026. Voilà, moi je voulais revenir sur la page 44 du Motomag. C'est encore un lecteur qui ne se reconnaît plus trop dans Motomag. Ah. Et moi, je voulais revenir un petit peu sur ces motos électriques, là. lors d'un essai Can-Am électrique, on voit un gros camion
Vanderbilt
qui doit marcher certainement à l'essence ou au gasoil, je ne sais pas. Et à l'intérieur de ce camion, il y a un gros méga accumulateur de 600 kW hein, qui recharge qui recharge en fait les motos électriques lors de cet essai hein, des Can-Am.
Parce que justement, il faut savoir qu'aux États-Unis, avec Trump, il a tout fait pour brider les stations de recharge électrique.
heureusement, à quoi ça sert de rouler donc une moto électrique si on doit ramener un gros camion après recharger ces motos, quoi.
Non, mais c'est clair que l'usage tout à l'heure dont on parlait avec Patrick par rapport à sa pratique de la moto, de toute façon, à partir du moment où on randonne à moto, on ne randonnera pas en électrique, c'est clair. On restera en thermique. Ouais. Donc, il faudra trouver des solutions. Par contre, sur le trail ou l'enduro, on a des machines, à mon avis, qui sont... c'est jouable.
Très efficace.
Ça, c'était pour la page 44 hein, d'un courrier de lecteur qui n'est pas non plus très content. Enfin, il ne se reconnaît plus dans les articles, dans les propos de Motomag.
Bon, le débat est ouvert.
Le débat est ouvert, voilà.
Et c'est Pierre qui se colle à la réponse.
Et c'est Pierre qui se colle à la réponse. C'est page 44. Oui. À vous de l'acheter, Motomag, et puis vous verrez bien. Voilà. Après, on se retrouve avec les essais ou Jean-Yves ?
Alors, non. Alors, je ne parlerai pas des essais. Vous savez, chaque mois, je vous le dis, il y a une quinzaine de machines qu'ils ont présentées. Là, il y a un comparatif sur les routières. Donc, la NT1100, enfin, c'est plutôt la version 1100, nouveau modèle de Kawasaki qui sort et qui est présenté. Donc, j'en parlerai pas, mais vous avez une quinzaine de machines qui vous sont présentées.
Très bien, on se retrouve avec Jean-Yves pour bilan de la FED.
À 59.
Très bien, à tout de suite.
Bah alors, et je vais vous dire quand même, en tant que Dakarquois, j'ai jamais entendu pas trop parler de Radio Campus. Mais à partir d'aujourd'hui, et je vais te brancher tous les jours sur le 106.6, bande d'enculés de Lillois.
Voilà, le magazine de la moto, c'est tous les dimanches, c'est sur Campus à partir de 11h. Jean-Yves, on va parler du bilan de l'AG, du bilan moral.
Oui, parce que l'AG qui s'est déroulé le 1er mars à Neuf-Berquin, il y a beaucoup de motards qui disent « Ah bah, la FFMC ne fait plus rien ». Alors c'est vrai qu'il y a un déficit de communication, mais là, justement, à l'occasion de cet AG, on a fait le bilan des actions 2024 et c'est pas rien. Hein. Donc, par contre, c'est pas hyper significatif, mais enfin, c'est quand même une indication. Fin 2023, il y avait 130 adhérents FFMC 59. Fin 2024, c'est 192. Donc, ça montre
c'est bien,
que
ça,
quand même
c'est
une
positif.
Montée en puissance.
C'est-à-dire que les motards s'intéressent quand même à vos actions.
Oui, mais quand on voit le nombre de motards sur le Nord...
Ah oui, c'est pas assez pour
c'est,
toi.
C'est pas un manque de participation, parce que c'est toujours pareil. Le slogan, n'oubliez pas le slogan, plus nombreux, plus fort. Bon, alors, les actions pour 2024, ça a été surtout concernant la mobilité. Hein, les restrictions de circulation suite à la ZFE. Il y a eu un accord avec le vice-président Sébastien Leprêtre afin d'exclure les deux roues motorisées du dispositif ZFE. Donc, si vous avez une vieille moto, vous pouvez rouler dans l'île. Si vous avez une vieille voiture, bah, vous êtes exclu. Hein, ça change pas. Dunkerque et Valenciennes voulaient aussi mettre des choses en place, des éléphants en place. Et là, justement, bah, y a eu prise de contact avec les autorités compétentes de ces deux ville pour essayer de discuter parce que bah, c'est toujours pareil, les administratifs comme ça ne sont strictement pas au courant des conditions de circulation des motos. Un truc, une précision aussi, c'est que bon, lors de cette assemblée, il y a eu quelques dissensions à propos du contrôle technique. il est précisé que finalement, le contrôle technique, la lutte contre le contrôle technique reste au niveau national qui coordonne tout cela et que la 59 ne fera que suivre les directives nationales. Parce que, bon, bah, c'est toujours pareil, ça demande énormément de gens, de place, de rendez-vous avec les autorités, et c'est pas simple. Donc les actions, bah, je vais sortir maintenant une prospective sur 2025. Il y a l'opération Nidpool là pour Pâques, hein. Il y a un site internet qui récapitule toutes les occasions, et c'est transmis, et ça marche assez bien, parce que les responsables d'infrastructure des villes savent que en cas d'accident mortel, ça peut leur retomber sur la couenne. Donc, ils ont tendance à se montrer un peu réactifs.
Raconte-nous un petit peu comment ça se passe, l'opération Nidpool.
Bah, l'opération Nidpool, c'est...
c'est où, d'ailleurs ?
C'est
sur toute la France ? C'est que dans les Hauts-de-France ?
Ah non, c'est partout au niveau national, mais je parle du niveau régional 59. Hein, donc, on va déposer de la paille dans les trous et puis surtout là sur l'île.
Donc vous faites du repérage avant ou vous avez des informations des motards vous ont envoyé un mail et qui vous disent attention là ça commence à bien faire.
Il y a une adresse internet pour signaler tous les gros défauts d'infrastructure. Pour la valorisation du deux roues, il y a la fête de la moto le 21 et 22 juin. Prévoyez ça sur vos agendas. La FFMC 59 organise aussi une reprise de guidon parce que là il y a eu celle de Famar le week-end dernier. Les CRS se limitent à une trentaine de stagiaires et en général c'est toujours plein. Alors là on peut voir effectivement aussi une disparité entre la 62, la DDTM 62 organise 5-6 reprises de guidon alors que dans le nord c'est uniquement Famar et Villeneuve-d'Ascq ici le centre d'examen de permis. Donc,
alors, la reprise de guidon, ça correspond à... On fait quoi ?
Alors, on fait quoi dans une reprise de guidon ? Théoriquement, on essaie de rafraîchir dans la tête des motards certaines manœuvres qu'ils sont plus habitués à faire, notamment à vitesse lente. Et c'est parce que c'est là où n'importe quel con peut rouler à 200 sans problème. Il peut même lâcher le guidon à 200, la moto se conduit toute seule. À 10 à l'heure, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a aussi un projet, là c'est intéressant aussi, organisé sur Valenciennes, sur une manifestation, un droit au casque pour lutter contre les violences conjugales. Hein. Les bénéfices iront justement aux associations de défense des violences conjugales. Et ça se déroulera le 20 septembre. Aussi, ce qu'il faut faire, développer, c'est s'investir dans les commissions mobilité, suivre les ZFE, suivre les parkings, la mobilité dans les aculos, etc. Donc ça, c'était le volet activité de la FFMC 59. Je peux signaler aussi, mais ça j'en parlerai plus longuement dans l'émission du mois prochain, de l'objectif de la reprise de guidon. Je vous détaillerai ce qui se fera, ce qui est utile pour un motard, parce que le problème, souvent, ça dépend des CRS qui conduisent la chose, mais la mentalité... encore trop courante, c'est que le CRS se dit « c'est des petits jeunes motards, moi je suis un professionnel, je vais leur montrer comment on roule à 150 sur les départementales ». Et donc, en général, ça peut être très dangereux parce que les mecs essaient de suivre et puis évidemment, ils en sont incapables parce qu'ils ne conduisent pas assez. Et puis, reprise de guidon, le problème, c'est qu'effectivement, en moto, il y a des automatismes de conduite. Quand on reste tout l'hiver sans les pratiquer, on a tendance à les perdre et à conduire n'importe comment. Hein. J'aurais voulu aussi parler de l'opération hashtag les gueux. Alors là, c'est organisé par Alexandre Jardin, l'écrivain bien connu, qui organise une manif à Paris ce dimanche hein, à 14h. Alors vous avez encore le temps d'y aller si... enfin bon, en faisant vite. Effectivement, l'argument de hashtag les gueux, c'est qu'il y a 46 millions de bagnoles en France. Donc il y a quasiment 22, 23 000 qui sont d'avant 2017 et donc qui ne pourront plus rouler en ville. Donc les rendez-vous médicaux, tout ça, c'est comme à un moment on disait zone à faible émission, c'était pas vrai, c'était zone à forte exclusion sociale. Et donc de plus en plus on se réveille au niveau français. D'ailleurs, il y a une proposition de loi de 60 députés qui veulent supprimer les ZFE parce que de toute façon, quand on regarde les chiffres, on voit que dans les centres urbains, la pollution a diminué et qu'elle continue à diminuer régulièrement. Donc, c'est vraiment de la forte exclusion sociale. Et ça va finir là pour l'instant. Il n'y a pas encore de répression automatique. Mais quand elle arrivera, là, ça va descendre
donc,
dans la rue.
Donc, cette manif est organisée aujourd'hui, c'est pour...
Annuler, sensibiliser.
Ces fameuses ZFE. En plus, on n'y comprend rien, ZFE, hein, parce que autant à Paris, ça va être compliqué. Mm-hmm. Dans d'autres villes, les motos sont acceptées.
C'est différent pour chaque ville. Donc, on ne peut pas traverser la France sans avoir un accès Internet pour savoir si on a le droit.
Oui, bien sûr.
J'aimerais apporter une petite correction. Ce n'est pas 22 à 23 000 voitures, c'est 22 millions. 23 millions de voitures.
Oui. On imagine. Ma fourche, elle languit.
Non, mais c'est bon de rappeler quand même.
C'est de l'exclusion sociale. On est théoriquement, la Révolution française s'est faite sur le principe liberté, égalité, fraternité. Là, l'égalité, les ZFE, c'est fait que pour les riches puissent bien respirer dans les villes en foutant les pauvres dehors.
Et puis alors moi, je trouve que pour le business, pour ceux qui fabriquent, qui construisent ces véhicules, c'est bon.
C'est bon. Oui, de toute façon, c'est chinois.
Bah oui.
Non, mais... c'est bien de faire travailler des petits gamins dans les mines.
Ça va faire entrer de l'argent dans les...
Et puis, n'oubliez pas, en voyant une Tesla, criez-leur « Aïe, Tesla !»
Oui, voilà. Bon, c'est terminé, Jean-Yves.
C'est terminé. J'ai parlé un peu vite, mais j'étais limité en temps.
FFMC, voilà. Très bien, merci. On passe à un morceau de musique, on se retrouve juste après.
Yes, I am.
Le magazine de la moto, c'est tous les dimanches à partir de 11h, c'est sur Campus Lille. Daniel, rebonjour.
Salut la Miche, rebonjour tout le monde.
Voilà. Tu vas nous parler de la chute d'un géant du custom, les origines et les conséquences.
Oui, tout à fait. Alors, vous connaissez mon attachement à cette marque depuis 1975, où j'ai eu ma première Harley, hein, pour ne pas la nommer, un 1200 fonte. Et à l'époque, donc dans les années 70, tout le monde, enfin, on voyait peu de ces motos quand même. Et pour beaucoup, ça donnait envie. En plus, c'était supporté par des films mythiques, par des stars de la chanson, du cinéma qui donnaient.
Quel film, Daniel ?
Oh là. Comment dire, avec Marlon Brando.
Marlon Brando. C'était une triomphe, hein.
Il y avait des sportsters dedans, il y avait comment s'appelle notre ami Elvis qui faisait la promotion du sportster, etc.
Donc
il y avait,
et Brigitte Bardot
aussi, il y avait une culture qui faisait que globalement on rêvait de ces motos, parce que déjà à l'époque c'était rare d'en trouver. Et puis chemin faisant, ces marques ont pris de l'expansion, sont devenues de plus en plus branchées, n'ayant pas peur des mots, et jusqu'à arriver à des sommet, je dirais, économique. Alors, ça veut dire quoi tout ça ? Vous connaissez, moi, mon attachement au juste prix d'un produit. Et j'ai trouvé, et je trouve toujours, que la politique Harley, depuis que l'intermède Aermacchi à l'époque, faut quand même pas oublier quand ils ont fait faillite, sont partis dans des délires brillants. Un petit peu comme tous ces produits qu'on voit apparaître et disparaître d'ailleurs aussitôt. Et puis, le succès aidant, les prix sont devenus aussi à la hauteur un petit peu de ce qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux, dans les médias, etc. Celui qui n'a pas une Harley, hein, comme disait un pubard, c'est qu'il a raté sa vie.
C'est le prix de la marque, hein. c'est comme les Rolex.
Absolument, mais c'est exactement le même cheminement. Donc, les gens post-70, on roulait Harley, voulait Harley, etc., etc. Mais par contre, ce qui s'est passé, c'est que la jeune génération, donc les gens post-2000, n'en ont rien à faire. De mettre 30, 35 ou 40 000 dans une enclume de près de 400 kilos. Le côté rebelle, ils n'en ont rien à faire. Donc, il y a toute cette culture qui a un peu disparu. Alors,
et puis aussi le fait que les motards actuels ne bricolent plus sur leur moto.
Voilà, à l'origine. Donc
à l'époque, il y avait quand même des stocks de l'armée américaine où, pour trois fois rien, t'achetais deux, trois Harley, t'en faisais une avec.
Ouais.
Maintenant, c'est plus le cas.
Oui, d'abord, il y a l'électronique qui a complètement changé aussi la donne. On est passé des moteurs, je dirais, assez rustiques, presque agricoles, à des moteurs extrêmement sophistiqués quand même. Le potato, on l'a perdu. Enfin, il y a tout. Je dirais, globalement, Harley a perdu son âme. Alors, est-ce que la prochaine génération peut relancer cette marque ? Je n'en sais rien. Parce que quand on regarde un petit peu les déboires comme une marque comme KTM, tout le monde est au courant que c'est une marque qui ne va pas très très bien. Harley, en tant que constructeur mythique, n'ayons pas peur des mots, parce que c'est extrêmement fort au niveau de la culture cinématographique, littéraire. Il y a eu énormément de sujets sur cette marque. On se dit, mais est-ce que ça peut disparaître ? Oui, ça peut disparaître. Pour une bonne et simple raison. Rappelez-vous, je vous ai donné le mois dernier les chiffres de motos Harley vendues en France, et d'ailleurs Indian aussi. Ce sont des marchés quand même qui se cassent la figure. Hein. En trois ans de temps, on est passé de 12 700 motos à peine 4 500 motos vendues sur 38 ou 42 concessions. Et quand on regarde un petit peu le chiffre aux États-Unis, le chiffre généré par Harley Davidson a baissé de 11%. Donc, le bénéfice net a baissé aussi de 36%. Alors, on pourrait dire, oui, c'est un épiphénomène, mais non, ça fait quand même pas mal d'années que ça dure. Et le pire, c'est que le dernier trimestre qui devait être porteur, les ventes ont chuté de 39% au niveau mondial. Alors, est-ce que l'effet Trump va redonner un coup de boost chez Harley ? Je suis désolé parce que quand il a annoncé toute la liste, vous avez vu à la télévision, sur tous les médias, les taxes qu'il met sur tous les produits importés, y compris pour la France, pour le cognac d'ailleurs, donc entre 17 et 37% de hausse sur les produits importés, sachant qu'Harley importe énormément de ses produits d'Inde, entre autres, et du Vietnam, il faut s'attendre à ce que les produits fabriqués prennent en moyenne 20% de hausse au départ. Et en rétorsion, les Européens vont rajouter des taxes aux produits américains. Normal. Donc, oui, c'est de bonne guerre, comme dirait l'autre. Alors, ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que le ticket, je ne dirais pas le ticket d'entrée, mais le prix moyen d'une Harley ou d'une Indian de bon niveau, sans passer par les entrées de gamme, le ticket d'entrée, c'est 32-35 000 euros. À l'heure actuelle, on peut se poser des questions. Est-ce que ça vaut encore le coup?
Ben, je peux te donner un exemple. Au dernier stage à FDM, il y avait une 750. Quand Harley, le mec disait « Les autres harleyistes, ils me considèrent comme de la merde. »
Voilà.
Et le mec avait 23, 24 ans d'âge. Enfin, donc, il avait 2-3 ans de permis, à peine. Et il a eu l'occasion d'essayer les motos des autres stagiaires en disant « Bah, c'est une enclume. »
Ben oui.
Alors, je suis considéré comme un con et je roule sur un truc qui est quasiment inconduisible.
Oui. Alors, je crois qu'il faut remettre aussi les choses en perspective. C'est-à-dire que Harley a tenté de faire un petit peu, de surfer sur la culture woke à travers le monde et se sont ratatinés parce que les gros barbus tatoués avec des patchs partout sur les blousons de cuir, c'est pas tout à fait cette culture-là. Et je suis désolé, c'est l'image que l'on a de cette culture nord-américaine. Et donc, ils ont dit tiens, on va recaler un petit peu notre business plan en sortant avec, rappelle-toi la miche, on l'a essayé la Pan America, et ils ont sorti le moteur Revolution Max, qui est un échec. Qui est un échec, pourquoi? Parce que c'est sans doute une bonne moto, enfin technologiquement parlant, mais le prix d'entrée de gamme qui est censé remplacer les Sportster à 9000 euros, pardon, on arrive à 17 000 euros, oui. Les gamins n'ont pas les moyens d'acheter ça. Et puis, ils ne veulent pas mettre des sommes.
Alors, je reviens sur tes propos, c'est là que tu dis que Harley a vendu son âme.
Oui.
C'est-à-dire au niveau des prix.
Oui, tout à fait. A vendu son âme et sa culture, enfin, côté légendaire qu'on a perdu, pour avoir des concepts un peu bâtards, je dirais un peu aseptisés, parce que, voilà, ce qui a fait ce côté un peu rugueux, un peu dur, n'ayons pas peur des mots, ben, ils l'ont perdu. Alors, est-ce que Harley, tel qu'on connaît, ça va perdurer dans la prochaine décennie? Ça n'est pas sûr du tout. Alors, lueur d'espoir. Alors, vous allez voir l'ironie. Il y a une gamme qui a augmenté ses ventes de 98% chez Harley.
Ah, c'est la Harley.
Ouais. Oui. La Lightwire.
Non.
Ah, oui, la moto électrique.
Partant de zéro,
ils ont deux.
Non, mais, alors, attendez. Non, mais soyons sérieux.
Enfin, Daniel.
Oui, non, mais c'est économique, c'est enregistré au bilan, etc. Parce que ils sont passés de 148 motos vendues dans le monde.
Attendez.
À 345.
Waouh! Oui.
Ah oui. Donc, ils ont augmenté leur vente de 98%. Mais par contre, ils ont une perte d'exploitation de 115 millions de dollars. Alors, ils te disent que c'est conforme à leur objectif. Ah moi, bon, je veux bien. Voilà. Mais moi, quand je suis à découvert sur mon compte en banque, je peux vous assurer que mon banquier ne dit pas que c'est pas conforme.
C'est pas conforme.
Voilà. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que la situation du custom dans le monde, et particulièrement en France, est préoccupante. Désespéré, non, je pense pas, tant qu'il y a des villes d'espoir. Hein.
Tant qu'il y a des milliardaires, il n'y a pas de problème. Non, les modes supérieurs, ça se vend bien.
Non, mais c'est pas la même chose. Je pense pas qu'on ne peut pas considérer, je dirais, du prêt à consommer et du sur-mesure. Mais néanmoins, Harley, c'est une marque quand même avec une identité extrêmement forte qui a honnêtement des éléments marketing stratégiques très très importants. Le sursaut viendra à ce qu'on retrouve des dirigeants motards et non plus des actionnaires et des fonds de pension. Voilà. Sinon, point de salut.
Oui, ok. Mais ça, c'est l'Amérique aussi. Hein, voilà,
non, c'est le monde, c'est global. Et, ça, c'est,
voilà,
et c'est toujours les actionnaires.
Après, moi, je dirais que
cette
marque, Harley Davidson, comme une autre aussi, qui est américaine aussi, ils ne peuvent pas faire d'autres machines. Ils ne peuvent pas partir sur la sportive ou... Alors, ils ont fait du trail, oui,
ouais.
Mais ça n'a pas marché, le trail.
Non, c'est la Pan America qu'on a essayé, qui est une superbe moto. Rappelle-toi, on l'a fait, mais c'est un bide. Même les concessionnaires, en occasion, ne veulent pas les reprendre. Voilà. Enfin, technologiquement, on peut faire un parallèle, puisqu'il y a Christophe qui montre la Challenger de chez Indian. Indian, introduit des notions de plus de sportivité dans leur moteur avec des moteurs refroidis par roue, etc., avec des 120-130 chevaux, même s'il n'y a pas de quoi se taper derrière par terre. Mais ils essayent d'embrayer dans l'univers japonisant ou même italien. Alors qu'Harley est complètement coincé dans son système. Et son business plan et son marketing, à mon avis, est caduque. En plus, il ne faut quand même pas oublier que... Comme par hasard, depuis 3 ans, ils ont rajouté des choses étonnantes pour ajouter de l'additionnel de marge, les frais d'importation et de transport. Parce que jusqu'à preuve du contraire, quand vous achetez un produit en magasin, vous avez le prix, plus tout ce qui se rajoute. Attendez, il faut être sérieux. Un prix, si ça vaut 10, ça vaut 10. C'est ouais. pas 10 plus, plus, mais... plus. Donc, voilà, il y a plein d'éléments. Donc, ils ont essayé de compenser un petit peu leur perte de vente en essayant de trouver de la marge additionnelle sur des tas d'artifices. Ouais. Mais les gens ne sont pas cons. À un moment donné, se disent stop. C'est pour ça que, d'ailleurs, on parlait de sportivité sur les Américaines. La FTR, Carbon et compagnie, ils l'arrêtent hein, chez Indian. Donc, ça prouve aussi que vouloir singer, par exemple, Ducati, hein, pour ne pas la nommer, ben ça ne marche pas. Les gens ne sont pas cons. On préfère acheter une Ducati qu'on va payer entre 9 et 12 000 euros plutôt qu'un truc... Non, non, je parle des scramblers à ce niveau-là.
Ah ouais. Ouais.
Et à périmètre comparable. Et pas mettre 17 ou 22 ou 24 000 euros pour un produit qui n'est qu'une copie.
Non, mais il faut aussi préciser qu'Indian, il y a Polaris derrière.
Alors, donc, c'est le groupe Bombardier.
Ou Bombardier. Donc, ça peut être considéré comme une danseuse si l'ensemble de la boîte rapporte quand même suffisamment. Mais
rappelez-vous,
le problème, c'est que Davinson, il n'y a personne derrière.
Rappelez-vous Victory.
Ouais,
aussi.
Exactement. Oui.
Voilà la miche.
Très bien, merci Daniel. C'était donc, on espère que ça va quand même aller. Hein,
parce oui.
Parce que Trump, ça fait que combien 4 mois qu'il est là au pouvoir, qui a ouais. été élu. Et à la heure où ça va, on se demande dans 4 ans. que va-t-il se passer?
Dans 8 ans. Parce qu'il veut prendre un troisième
mandat.
Non,
il n'y a pas le droit.
Si, il peut
encore. Ouais, bon,
parce qu'il y a le problème des mandats consécutifs ou non.
Ah bon, ah,
et
d'accord.
Puis de toute façon, il dit que la Constitution, c'est lui qui l'a fait. Donc il la change comme il veut.
On va commencer à faire le faire part de Harley Davidson, le faire part de décès.
Bah oui, j'espère que non. J'espère que non.
Merci Daniel.
Merci à vous. We'll be right back.
Voilà, le magazine de la moto, c'est terminé. Nous vous souhaitons un bon dimanche et surtout une bonne semaine. Restez à l'écoute de Radio Campus Lille et rendez-vous même heure, même endroit, dimanche prochain sur le 106,6.